Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, bienvenue dans ce nouveau épisode de Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Je suis Paul Citron, urbaniste, coproducteur de l'émission avec Dominique Alba, architecte et urbaniste. Bonjour Dominique.
Bonjour Paul.
Un petit pas de côté pour un hors-série d'actualité électorale. Aujourd'hui ce sera plutôt, et nous le verrons avec nos invités, ainsi ça va pas toujours la ville. Parmi tous les sujets qui occupent cette campagne des élections municipales, nous en avons, avec Paul, isolé trois, assez révélateurs des inégalités qui traversent nos sociétés. Le logement, bien sûr, l'usage de l'immobilier vacant et la représentation dans les instances élues. Le logement, chacun sait qu'il est la condition d'une vie digne et que si on est mal logé, tout devient plus difficile. On a besoin d'un endroit où se poser, se protéger, se ressourcer. Et c'est pour cela, par exemple, que la politique du logement d'abord existe, parce que sans logement, il est impossible de construire quoi que ce soit. Et pour autant, ce bien essentiel manque terriblement, alors même que jamais le parc bâti n'a été aussi important. Et c'est là l'autre inégalité, la lutte contre le gaspillage immobilier, une urgence écologique, sociale et politique, dans les mains de nos élus locaux, qui ont un rôle majeur à jouer. Ils exercent un rôle de coordination et d'orientation générale des acteurs dans les territoires et disposent de nombreux moyens d'action, comme des compétences et des outils directs, indirects ou de coordination dans le domaine de l'urbanisme et de la gestion des services publics. Ils sont donc la clé de voûte de ce changement d'attitude. Mais ces élus, qui sont-ils ? Un rapport met en évidence un engagement massif des classes populaires et moyennes dans la vie politique qui disparaît dès lors que l'on regarde qui est effectivement élu. 30% des 2,17 millions de personnes ayant candidaté au moins une fois à une élection depuis 2002 appartiennent aux classes populaires. Et pourtant, à l'Assemblée nationale, les élus issus des classes populaires ne représentent qu'environ 6% des députés, soit une sous-représentation majeure. Nous allons voir si le scrutin local, qui semble a priori être plus équilibré, l'est vraiment. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours d'un scrutin municipal et nous allons pouvoir échanger avec nos invités pour savoir si cette fois, le scrutin de 2026 va réduire les inégalités et optimiser ce que nous avons à disposition.
Et pour en parler avec nous et donc commenter cette actualité hors série consacrée au municipal des 15 et 22 mars prochains, on a le plaisir d'accueillir trois invités, une fois n'est pas coutume non plus, à la fois observateurs et acteurs de la politique locale, Annie Lameur, Catherine Sabat et Hugo Christy. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Annie Lameur, vous êtes conseillère régionale, vous avez occupé diverses activités professionnelles auparavant dans le secteur de l'aéronautique et de la photo, puis été directrice de cabinet du maire écologiste du 2e arrondissement de Paris, c'était sous Bertrand Delanoë, il me semble.
Avec Jacques Bouteau.
Et Anne Hidalgo.
Et Anne Hidalgo. Oui. Avant de devenir conseillère régionale en 2015 et réélue en 2021 au sein du pôle écologiste. Vous êtes membre du collectif DLP, comme démocratiser la politique, un projet de recherche et de mobilisation qui vise à promouvoir la parité sociale en politique. On y reviendra. Catherine Sabat. Catherine, vous êtes déléguée générale de IDEAL, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement. Ancienne journaliste, aux Échos notamment, autrice de l'ouvrage Pour en finir avec les idées reçues sur le logement. Et votre institut forme les professionnels du logement, mais conduit aussi des recherches et publie des rapports pour visibiliser ces questions essentielles dans le débat public. Le dernier rapport en date s'intitule « Crise du logement, la parole au maire » avec Cyril Poy. Et Hugo Christy, vous êtes urbaniste et journaliste, maître de conférences à l'École urbaine de Sciences Po, cofondateur de l'association Surface Plus Utile, qui a publié récemment des recommandations à destination des futurs élus locaux pour qu'ils adoptent des mesures en faveur d'un immobilier plus solidaire et d'intérêt général. Donc merci beaucoup à tous les trois d'être sur le plateau de Ainsi va la ville. On va commencer tout de suite par le sujet du logement. Donc le logement, comme le disait Dominique, c'est un sujet essentiel pour la vie des concitoyens, des habitants et des habitantes, et pourtant sujet ô combien difficile, sensible et qui exacerbe beaucoup d'inégalités. Catherine, première question, que peuvent faire les maires concernant le logement. Est-ce que c'est de ça dont parle votre rapport, le rapport sorti par Idéal ?
Oui et non. Alors le rapport sorti par Idéal, il s'appelle effectivement La parole aux maires. C'est un sondage qu'on a effectué auprès de tous les maires de France hexagonale et d'outre-mer. Et on a recueilli un échantillon assez représentatif pour qu'on puisse le traiter. Donc des petites communes, des grandes communes, on a traité ça par strate de ville de jusqu'à 50 000 habitants. Au-delà, c'était pas représentatif. Et en fait, ce que nous disent les maires, c'est ce qu'ils ressentent de la crise du logement. Donc premier résultat, c'est la crise. À peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Et même si les petites communes ont moins utilisé ce terme-là, en tout cas, elles sont d'accord, enfin leurs représentants et leurs représentantes sont d'accord pour dire que c'est un sujet très important. Et il y a un chiffre très intéressant qui est 60% des élus qui ont répondu nous disent c'est un sujet très important, stratégique, on veut agir. Et 60%, c'est-à-dire le même chiffre, disent en revanche, notre capacité à produire du logement ou à rénover du logement est faible ou nulle. Alors comment on peut comprendre ça ? En fait, en termes de logement, le maire peut à la fois peu et beaucoup. Hein, parce que la politique du logement, elle n'est pas une politique décentralisée. Le maire a des outils à sa disposition, qui sont en premier lieu le permis de construire. Enfin, c'est vraiment le sésame pour produire, rénover, etc. D'autres choses comme la possibilité de gérer du foncier, la possibilité de voter ou de faire voter des taux de fiscalité locale, la possibilité d'agir sur l'habitat indigne. Mais en revanche, il est souvent contraint ou encadré par une intercommunalité dans laquelle sa commune figure. Et franchement, l'intercommunalité, c'est plutôt intéressant parce qu'aujourd'hui, on vit à l'échelle de bassin de vie qui fait qu'on franchit la commune, la frontière de sa commune tous les jours pour aller travailler, pour aller à la piscine, chercher ses enfants, faire ses courses, etc. Donc la limite de la commune, elle a moins de raison d'être, peut-être. Et de toute façon, le maire ou la maire, ils siègent dans ces assemblées intercommunales. Parfois, ils en sont les vice-présidents, parfois, ils en sont les présidents. Donc, ils ont quand même un pouvoir d'agir à travers ces instances.
Et est-ce que vous vouliez réagir, Annie ?
J'ai dit le et la mère, hein, j'ai fait attention à chaque fois.
Ouais, souvent, il y a... j'ai envie de réagir parce que effectivement, les maires disent qu'ils ont du pouvoir et pas de pouvoir en même temps. Mais quand on voit la construction du mobilier privé, moi dans les communes, la commune où j'habitais, le maire nous disait j'arrive pas à faire de logements sociaux. Il applique pas la loi SRU, il paye l'amende, mais il fait du logement privé. Voilà.
Alors après, ça dépend du projet politique ou de la maire. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, il a des outils à sa disposition qu'il peut utiliser.
Voilà, c'est des choix politiques, en fait.
De ses choix politiques. Et alors, effectivement, logement social ou pas, développement du bureau à outrance ou pas, alors qu'il n'y en a pas besoin, logement trop cher, foncier trop cher, etc. Et aménagement aussi.
Est-ce que vous ne pensez pas que ces élus ne disposent pas de la bonne connaissance ? Parce que ce qui est étonnant, c'est que tout le monde dit que plus de logements, ce n'est pas forcément plus d'habitants. C'est déjà donner la possibilité à ceux qui sont là d'habiter tout simplement. Les gens divorcent, les gens vivent plus longtemps. On arrive vers la ville des 4 générations, ce qui est quand même une grande première. Et les maires vous disent oui, mais il va falloir des équipements. Les équipements, c'est fonctionnement et investissement. Et quand on parle d'investissement, c'est mètres carrés. Or, des mètres carrés disponibles, il n'y en a jamais eu autant. Donc, on a un système quand même très, très paradoxal. Peut-être, Hugo, il veut rebondir aussi là-dessus, puisque surface plus utile, c'est aussi un mouvement, je dirais, puisque vous êtes tous les trois des gens qui portaient des mouvements, qui permettraient peut-être de trouver des solutions en dehors des systèmes existants. Puisqu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, le système existant, il a l'air d'aller un peu dans le mur.
Oui, tout à fait. Catherine disait à l'instant que la politique du logement n'était pas une politique décentralisée. Si on parle des bureaux vacants et de l'immobilier d'intérêt général, qui est le thème de prédilection de Surface Plus Utile, là, c'est encore différent. C'est-à-dire que ce n'est même pas un sujet de politique publique en réalité. Ou plus précisément, c'est un sujet de politique publique silencieux, comme on aime bien dire. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses sur les territoires. Mais un peu sous les radars. Il y a beaucoup de maires qui œuvrent sans même savoir qu'ils œuvrent, parce qu'il est monnaie courante que quand on est maire, on passe un local à une association pour une distribution alimentaire, pour le club de pétanque ou que sais-je. En revanche, il manque encore un niveau pour aller plus loin et se dire « Ok, on va vraiment taper dans le stock de bureaux vides, typiquement. Hein, donc, on rappelle les sommes, c'est combien ? C'est 9 millions hein, de mètres carrés.
On estime à 9 millions en France, en Île-de-France, officiellement 6 millions d'immeubles, de bureaux sur le marché, disponibles à la location, donc vides.
Voilà, donc un gisement absolument considérable dont on peut imaginer faire plein de choses. On peut imaginer dedans faire du logement, bien sûr, mais on se rend compte aussi que c'est pas si simple que ça, que c'est coûteux, que c'est long, que c'est pénible. Et bon, nous, notre message de l'association Surface Plus Utile est de dire au moins dans l'attente ou de manière plus pérenne, pourquoi pas, loger des acteurs utiles au territoire, type économie sociale et solidaire, acteurs de la culture, acteurs de la transition écologique, etc.
Et donc, Annie, est-ce que vous pensez que si on avait une meilleure représentativité sociale des élus, on serait plus innovant dans toutes ces démarches ?
Oui, moi j'en suis convaincue. Nous, chez Démocratiser la politique, on bosse en fait sur ce sujet, mais plus largement sur le sujet de la représentation sociale en politique. Et moi, ce que je vois, et de par mon expérience en tant qu'ancienne directrice de cabinet issue des quartiers populaires, et le maire du deuxième était aussi issu des quartiers pop. C'est peut-être pour ça qu'on s'est retrouvés tous les deux. On se connaissait pas, travailler ensemble. Et pour rappel, dans le deuxième, on a eu le fameux ministère du mal logement, avec une occupation pendant des mois d'un bâtiment qui était une banque, vide depuis 20 ans. Et en fait, nous, tout de suite, le maire et moi, on les a soutenus. On est allés sur place, on les a aidés, et contre la mairie centrale. Et on les a tellement soutenus et on a vraiment travaillé sur le sujet qu'à la fin, il y a eu une négociation entre Bertrand Delanoë et la banque. Ça a été racheté par la ville. On en a fait du logement social et du logement social de qualité et du PLAI. Donc vraiment pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et je pense que ça, si on a réussi à le faire, c'est peut-être aussi parce que nous, on savait ce que c'est. Enfin, moi, dans mon expérience de vie et probablement dans la sienne aussi, on sait ce que c'est que le mal logement. On savait ce que c'est que d'être dans la galère au niveau du logement. Et ça, ça a vraiment, je pense, ça nous a permis de porter le projet.
Aujourd'hui, on le sait, il y a des outils pour promouvoir et organiser et permettre la mixité sociale au sein des quartiers, au sein des communes. Par contre, des outils qui pourraient permettre une mixité sociale au sein des listes, au sein des conseils élus, n'existent pas encore. Je crois que chez Démocratiser la politique, vous portez quelques propositions par rapport à ça. Est-ce que en une minute, vous pourriez nous récapituler ce qu'est ce collectif Démocratiser la politique et comment vous vous positionnez dans la campagne?
Alors, le collectif s'est créé il y a 3 ans. On est une quarantaine de co-chercheuses et co-chercheurs. Ça a été porté par un sociologue, enfin deux sociologues. Et depuis, on bosse sur le sujet. On a tous le même parcours de vie. On a tous rencontré les mêmes problématiques, c'est-à-dire le mépris de classe. Pour la plupart, on n'a pas fait de hautes études.
Mais pour la plupart, je crois que vous êtes engagés en politique, les 40 co-chercheuses et co-chercheurs.
On est engagés en politique et c'est là où on s'est rendu compte que les gens issus des quartiers pop sont très engagés en politique. Ils sont là, ils sont sur le terrain, ils sont à la tête d'associations, etc. Mais au final, on ne les retrouve pas aux élections, en tout cas dans des postes éligibles ou très peu. Et quand ils sont élus, on les met à des postes subalternes. Et nous, on a mis en place là un système qui permet d'aller voir la parité sociale de la ville. En fait, le paysage de la ville, à quoi correspond notre ville, quels sont les pourcentages de classe pop, de classe moyenne et de classe supérieure, et de faire un parallèle avec la représentativité au niveau des conseils municipaux. Et ça, c'est facile, il faut cliquer dessus, c'est sur le site de Démocratiser la politique. Vous pouvez voir ça et vous pourrez aller ensuite voir sur les listes qui sont déposées comment elles sont, elles confirment ce que nous on dit, c'est-à-dire que la parité sociale, à part exception, il n'y a pas de représentativité. Et aussi, ça aussi dans des communes qui sont des communes soit pauvres, soit très populaires.
Et on mettra en ligne sur le site de l'émission le lien voilà, vers le site donc, démocratiserlapolitique.org et donc vers ce test de parité sociale pour tester la représentativité sociale des listes.
Mais vous disiez que, quand on regarde votre site, hein, et c'est passionnant, j'invite vraiment les auditeurs à aller réfléchir à ce sujet. Donc, on n'est plus que dans la... Il y a mixité homme-femme, mais là, on est parité sociale, c'est autre chose. Et dans les communes, les élus locaux, on avait le sentiment quand même que c'était moins catastrophique que quand on montait dans les instances nationales, c'est-à-dire il y a l'Assemblée nationale et je n'irai pas jusqu'au Sénat parce que alors là c'est...
Les européennes aussi, c'est 4%.
Ouais, les européennes, donc je me suis arrêtée à... Ça c'est mon côté toujours un peu positif. Et puis je me suis dit, nous sommes à la veille d'élections municipales. Donc peut-être, et nous parlerons pas mal de ce qui se passe à Paris et dans la métropole du Grand Paris, puisque après, en particulier à Paris, plus de 20 ans de gauche, est-ce qu'il y a eu des progrès? Et vous allez nous le dire tous les trois. Donc est-ce que quand même, dans les élus locaux, la chose est moins délicate, on va dire?
Elle est moins délicate, naturellement. On n'est pas à 4% d'élus issus des classes pop, ce qui est normal, puisque déjà, c'est compliqué de faire une liste. Donc, on va chercher les gens. Et malheureusement, on va aussi les chercher parce qu'ils sont à la tête d'une association, parce qu'ils représentent un collectif, parce qu'ils sont sur le terrain. Mais après, où est-ce qu'ils sont sur la liste? Et quelles sont leurs fonctions au sein de l'exécutif? C'est aussi ça le souci, c'est quand on va avoir aussi des deuxièmes tours où on va mixer deux listes ou trois listes, comment, et nous on le montre, hein, et vous le verrez sur le site si vous y allez, c'est que plus on monte et sur la liste, moins on a de classes pop. Les classes pop, elles sont en bas, elles sont en bas de la liste.
Alors Catherine, dans l'enquête que vous avez menée auprès de tous ces élus de communes de toute taille et plutôt de petite taille, est-ce que vous avez noté des différences au regard peut-être de la composition de la structure municipale? Je ne sais pas, c'est sans doute peut-être pas forcément l'angle que vous avez privilégié, mais est-ce que dans des cas qui vous ont interpellé parce que de l'intelligence collective qui a permis de faire des choses, enfin, j'imagine que dans tous ces sujets, on voit toujours tout d'un coup apparaître comme une pépite ou un miracle, et Hugo c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des exemples? Et est-ce que, dans ces cas-là, les élus qui ont porté ces exemples, ils ont des caractéristiques légèrement différentes? Vous parliez de votre activité, Annie, avec Jacques Boucaud, qui vous a permis de transformer un immeuble de bureaux, de l'intégrer au parc social. Est-ce que ça existe dans ce que vous connaissez, Catherine ou Hugo?
Alors, dans notre sondage, on n'a pas allé à cette finesse d'analyse.
Hein, next time.
Oui, peut-être next time, il faut creuser un peu, il faut aller un peu plus loin. Les résultats qui sont intéressants, néanmoins, c'est des résultats qui vont un peu à l'encontre, en fait, de certaines voix qui sont portées par les représentants nationaux, que peuvent être les parlementaires, sénateurs ou députés. Et par exemple, on a dans nos réponses une grande approbation de l'encadrement des loyers. Voilà, un outil qui n'est pourtant pas aux mains des maires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 70 villes qui appliquent cette régulation, mais elles doivent demander l'autorisation à l'État de pouvoir le faire. Ce qui est un peu étrange, parce qu'on peut se dire quand même que c'est les élus locaux qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent bien la tension immobilière sur leur territoire. Alors, l'État impose un certain nombre de conditions, ce qui est normal, d'avoir un observatoire des loyers, parce que sinon, qu'est-ce qu'on peut juger? Mais néanmoins, donne comme ça l'autorisation et il ne la donne pas beaucoup, justement. Ça, c'était un résultat intéressant. Je le dis parce que la pérennisation de l'encadrement des loyers est suspendue à un vote du Sénat, hein, aujourd'hui. Hein, donc,
tout à fait.
Autre chose intéressante sur la loi SRU, donc le quota de logements sociaux qui est imposé à un certain nombre de communes qui font plus de 3500 habitants ou plus de 1500 habitants dans l'agglomération parisienne.
C'est 25%, c'est ça, désormais, le quota?
Alors, c'est 25% dans la loi, mais là aussi, il y a un indice de tension immobilière qui fait que, très récemment, un décret a permis à un certain nombre de villes, par exemple Toulouse, où je n'ai pas l'impression que la tension immobilière soit redescendue de manière visible, de se limiter à 20%. Donc là aussi, on se dit, ben, qu'est-ce que c'est que cette décision de l'État pour une application locale d'une loi qui doit rester régulée à l'échelle nationale, ça c'est sûr, mais dont les conditions d'application, notamment les 25%, doivent être un peu les mêmes partout. Voilà, et là aussi, la SRU, elle est très attaquée au Sénat, qui est pourtant, normalement, la voix des élus locaux, la voix des maires, etc. Donc il y a une petite dissonance entre ce qu'on entend sur le terrain et ce qu'on entend au Palais du Luxembourg.
En termes d'immobilier solidaire, Hugo Christy, est-ce qu'il y a des lignes comme ça de divergence, est-ce que ça fait consensus le fait de pouvoir utiliser des mètres carrés et leur donner une utilité sociale?
Oui, ce que je vais dire juste avant ça peut-être, c'était rebondir sur la représentativité, parce que Dominique en introduction donnait le chiffre de 2,3 millions je crois de personnes qui dans les 20-25 dernières années se sont présentées à une élection. Si on regarde juste une élection municipale, là, celle qui vient, c'est à la louche 1 million de personnes. Peut-être que ce sera 900 000, peut-être 1 million 1. Donc, c'est impossible que ce soit que des professionnels de la politique. C'est des gens qui ont un vrai métier, qui sont jeunes retraités, qui sont jeunes point à la ligne. Et donc, c'est très important qu'il y ait aussi un réseau d'acteurs associatifs, genre Idéal, genre Surface Plus Utile, genre DLP, pour non seulement pousser à leur représentativité, mais aussi pour les outiller, parce qu'ils vont tomber sur des sujets durs et compliqués. D'ailleurs, je crois que dans le sondage d'Idéal, c'est une des autres leçons, c'est que les élus demandent un soutien en matière d'ingénierie, d'expertise, parce que c'est dur d'aller chercher des financements, c'est dur de s'approprier les sujets. Et typiquement, pour reboucler là sur nos sujets d'immobilier social et solidaire, bon ben là, on est typiquement dedans, parce que c'est des sujets qui peuvent sembler loin, technocratiques, métaphysiques, qui n'ont rien à voir avec la préoccupation des gens. Et en réalité, avec juste un tout petit peu de travail d'explication, on comprend bien que si, en fait, un immobilier trop cher pour le tissu associatif ou les entreprises, c'est un café en terrasse qui est plus cher, c'est un lieu culturel qui est menacé de fermeture, une boulangerie en centre d'un village qui est menacée de fermeture, et ainsi de suite. Donc en fait, on voit bien le lien qui est très concret, et ça, les gens le comprennent bien. Et du coup, pour répondre à ta question, Paul... Immobilier social et solidaire, ça sonne vachement de gauche quand on le dit comme ça. Et effectivement, il y a beaucoup d'élus de gauche qui ont été sensibles à nos propositions et ont demandé à nous rencontrer pour travailler, voire parce que derrière, il y a l'idée d'un foncier non spéculatif. Cependant, finalement, il y a aussi un aspect très pragmatique qui fait que il y a plein d'angles par lesquels des élus de droite peuvent s'approprier la chose. Et on voit d'ailleurs des élus de toutes les couleurs politiques se lancer dans l'immobilier non spéculatif et bien voir l'intérêt pour le petit commerce, pour développer des filières d'avenir sur leur territoire, pour créer des emplois locaux non délocalisables. Donc il y en a pour tout le monde.
Moi, j'avais, pour continuer sur cet angle-là, et qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir cette parité sociale, puisque c'est quand même un peu le cœur de cette discussion. Tu disais, Catherine, les gens sont demandeurs d'ingénierie et d'expertise. Ce qu'apporte l'immobilier social et solidaire, c'est qu'il ne faut surtout pas regarder l'ingénierie au sens classique du terme, mais il faut au contraire, être un peu audacieux et prendre des chemins de traverse. Et je me disais que peut-être, quand on avait des personnes qui avaient connu ou eu des parcours de vie plus difficiles, elles avaient plus l'habitude des chemins de traverse, et elles avaient peut-être plus d'audace et pouvaient venir élargir cette notion d'ingénierie. Parce que si c'est pour faire du logement as usual, évidemment que les immobiliers vacants ne sont pas en capacité d'y répondre. Mais moi, j'ai connu la période où le loft était quand même le nec plus ultra du logement, et j'ai un peu de mal à me dire que le bureau ne peut pas devenir un loft, si vous voulez. Je vois pas trop. Donc on voit bien qu'il y a peut-être des choses qui pourraient aider. En faisant ce mélange des parcours.
Moi, j'en suis persuadée. Je pense que, de toute façon, et comme tu disais, c'est l'ingénierie... Enfin, devoir se débrouiller, en fait, c'est ça. Hein, c'est devoir se débrouiller pour arriver à vivre correctement, etc. etc. Et je pense que oui. Et mettre autour d'une table des élus ou des collaboratrices et des collaborateurs avec des profils différents, issus de milieux différents. Moi, je l'ai vu quand je gérais le cabinet à la mairie du Deux. J'avais des gens qui sortaient de Sciences Po et j'avais des gens qui étaient des militantes. enfin notamment une dont je me souviens bien, qui justement s'occupait du logement et qui était rentrée en contrat aidé. Et quelqu'un qui connaissait tout ça. Et en fait, c'était une richesse de réunir toutes ces personnes ensemble. De temps en temps, on avait des idées. Partaient de la mairie du deuxième. Hein, je disais tout à l'heure, c'était le village d'Astérix. Des propositions. Enfin, moi, je me souviens, sur la préemption du délogement dans le diffus, c'est parti de la mairie du deux. On s'est dit, pourquoi pas préempter dans le diffus ? Pourquoi ne pas avoir du logement social qui est géré par une association qui accompagne et tout dans le diffus? Et bien ça s'est passé au Conseil de Paris. Et je pense que c'est venu parce qu'à un moment donné, d'avoir des gens si différents autour d'une table, et bien il y a des idées comme ça qui remontent.
Catherine Sabat.
Oui, je pense tout à fait qu'il faut cette diversité de parcours, diversité d'origine, de personnes, etc. Parce que finalement, si on regarde notamment sur le logement, il y a beaucoup de gens qui parlent du logement qui sont très bien logés. Donc, ils ont une connaissance assez limitée de ce que peut être le mal logement. Et j'en fais partie, hein, je l'avoue. Hein, donc, j'essaye de faire la bascule. Il y a aussi un contexte qui est particulier aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans une crise économique, sociale et climatique qui fait que le système qu'on a connu pendant des décennies, qui consistait à produire du logement neuf sans se préoccuper de l'artificialisation des sols, avec suffisamment d'argent pour le faire, avec des ménages solvabilisés pour l'acheter, etc., ou le louer, fonctionnait relativement. Et puis, la dernière décennie a été une forme de dérèglement de ce système qui fait qu'on arrive au bout d'un système, au bout de quelque chose, sur plein de sujets, et qu'aujourd'hui, il faut une innovation ingénieuse et d'ingénierie,
de tout,
pour arriver à proposer autre chose. Et proposer autre chose, c'est quoi en termes de logement ? C'est proposer du logement moins cher. Et en fait, le logement moins cher, pour les élus locaux, paradoxalement, ça veut dire quelque chose qui s'effondre, ça veut dire une crise, ça veut dire un dynamisme immobilier qui est beaucoup moins fort, etc. Donc il y a un récit là à faire basculer, à changer pour que la crise, ce soit pas quand les prix baissent, mais ce soit quand les prix montent. Et donc pour les personnes qui veulent acheter et qui veulent louer, qui ont besoin en tout cas de se loger, il faut que les prix baissent, donc il faut du logement non spéculatif, il faut des coopératives de logement, il faut du bail réel solidaire, toutes choses. Les coopératives, c'est très vieux, mais ça revient un peu à la mode en France. Le BRS, ça a 10 ans, donc c'est des choses dont on peut encore dire que ce sont des innovations.
Oui, ben pour répondre à ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a 33 000 communes en France, donc on peut pas avoir un énarque à la tête de chacune d'entre elles.
Heureusement.
Et tant mieux. Et c'est vrai que nous, on voit remonter du terrain, mais alors des dizaines et des dizaines d'expérimentations qu'on pourrait appeler du système D, D comme des brouilles, et qui sont vraiment bluffantes. Donc de mairies qui, dans des villages ou des petites villes de moins de 1000 habitants, se débrouillent pour aller racheter les murs d'un ancien bureau de tabac, d'une ancienne boulangerie, lever des fonds auprès des habitants, aller toquer à la porte de la Caisse des dépôts, solliciter le préfet et avancer très péniblement dans un environnement administratif et financier bien complexe pour aboutir sur des réouvertures de commerce qui changent un petit peu des produits standardisés.
Et juste un mot là-dessus, c'est que dans notre sondage, il y a pas mal d'élus qui nous disent qu'ils n'ont pas d'opérateurs à qui s'adresser. Donc pas de bailleurs, pas de promoteurs sur leur petite commune parce que ces opérateurs considèrent qu'il n'y a pas de marché. Mais il n'y a pas de marché, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de logement. Et dans ce cas-là, c'est eux qui s'y collent effectivement en rachetant des murs d'une école, d'un logement vacant, d'un garage et qui transforment. Mais ce n'est pas évident et il faut de l'ingénierie pour ça.
On va marquer une mini pause musicale avant de se retrouver pour la deuxième partie de l'émission. Vous êtes dans un hors-série de Ainsi va la ville, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les traf- travestis vont se raser, les stripteaseux sont rhabillés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures à Paris. S'éveille. Paris. S'éveille. Le café est dans les tasses et les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris. S'éveille, Paris. S'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Des bâtards. Il est 5 heures, Paris. S'éveille, Paris. S'éveille. Faire froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures. Paris!
Retour sur le plateau de Ainsi va la ville, c'était Il est 5 heures, Paris s'éveille, mais pas de Jacques Dutronc, de Anne Pierlet. Merci à Hugo Christy pour nous avoir proposé cette reprise, cette très belle reprise.
Et donc, puisque c'est en hors-série et qu'une fois n'est pas coutume, on va se limiter peut-être au cas parisien, puisque il se trouve que vous le connaissez tous, pour un peu regarder les propositions des équipes de campagne et ce que vous avez pu observer, ce que vous avez éventuellement proposé. Donc peut-être on va commencer par Annie sur cette parité sociale. Les équipes de campagne vous ont-elles accueillies à bras ouverts?
Non, je pourrais pas dire qu'on nous a accueillis à bras ouverts. On a interpellé Yann Brossa il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Je crois que c'est Toufik qui était sur une émission où Yann a répondu en disant oui, on va s'en occuper. Voilà.
Toufik Valipuram, donc de oui. Démocratiser la politique.
Voilà.
Que nous saluons.
Et voilà. En fait, sur Paris, on a une candidate qui est dans le 18e arrondissement, à Yodele, qui a une liste citoyenne. Et voilà, c'est tout. En fait, on a eu très très peu de retours. On a des retours, on a un retour à Poitiers, hein, avec la maire qui se représente et qui a vraiment modifié sa liste. Elle a vraiment modifié. On a un retour de Toulouse, de la liste LFI. Et on a des listes, alors surtout des listes citoyennes, par-ci par-là, qui nous ont répondu. Mais les états-majors politiques... non, j'ai l'impression que ça leur fait peur.
Habituellement, quelle est la position sur cette thématique de la parité sociale? Que disent les partis politiques et les états-majors, justement?
En fait, depuis quelques temps et quelques mois, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les états-majors en parlent. En tout cas, les partis politiques en parlent. C'est dans leurs réunions publiques, c'est dans leurs événements, etc. Au final, tout à l'heure, vient de sortir la liste pour Paris, hein, la liste générale. Je suis un petit peu allée regarder. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de renouvellement. J'ai pas l'impression qu'on soit en train de renverser la vapeur. Et voilà, je pense que ce qui est compliqué, c'est que les partis politiques, en fait, on sait comment ils fonctionnent, et quand on donne des places, c'est soit par copinage, c'est son environnement propre, etc. Donc voilà, au final, on a aussi des gens qui vont cumuler. Enfin, moi, je pense que cumuler un mandat de sénateur et un mandat de conseiller de Paris ou de député, conseiller de Paris, c'est pas une bonne idée. Nous, à la région, on a des ministres qui sont conseillers régionaux. On les voit jamais, naturellement. Donc je pense qu'à un moment donné, si on veut aussi renouveler, c'est se dire, je laisse ma place, je me mets à une autre position sur la liste.
On a réussi à avoir la parité homme-femme, on va bien un jour arriver à avoir la parité sociale.
Je pense que ça a été compliqué, homme-femme.
Ça reste et très voilà. Compliqué, mais c'est une obligation, absolument. Donc c'est respecté. Peut-être, Hugo, sur la question de l'immobilier solidaire, est-ce que vous avez pu interpeller les candidats? Est-ce que ce sujet... Je crois qu'en ce qui concerne l'immobilier solidaire, c'est assez facile d'aller voir aussi dans le Grand Paris, parce que la première couronne est particulièrement impactée. Enfin, on voit bien arriver les mouvements où la Défense se réjouit de se remplir, mais la Seine-Saint-Denis se vide. Donc on a des petits mouvements comme ça. Peut-être en dire un petit mot?
Oui, tout à fait. Je fais l'entonnoir. D'abord, à l'échelle nationale, on est content parce qu'on a eu des listes qui nous ont sollicitées pour approfondir un peu la question, un peu de toute nature, de gauche, de droite. Il est vrai, peut-être un peu plus de gauche, mais aussi des listes métropolitaines et d'autres dans des petites communes. Donc là, pour le coup, on est assez, assez content de la représentation. Après, si on arrive à l'échelle du Grand Paris, c'est vrai qu'il se passe plein de choses en dehors de Paris. D'ailleurs, on a des adhérents communes qui suivent nos travaux et soutiennent nos travaux. Je pense à la collectivité, à la ville de Romainville, par exemple, qui fait partie de nos adhérents et qui sont, pour les raisons que tu évoquais, Dominique, intéressés à approfondir la question. Et pour ce qui relève du petit Paris, de la ville de Paris, le 75. Là aussi, je dirais qu'en tout cas, on a réussi à interpeller tous les candidats à l'occasion de la kermesse de l'immobilier social et solidaire. Tous ont été invités, tous n'ont pas forcément répondu, mais en tout cas, on a eu un son de cloche assez intéressant de la part de Pierre-Yves Bournazel, de la part de Emmanuel Grégoire, de la part de la représentante de la candidate LFI. Ce que je peux peut-être dire, c'est que, en tout cas, sur le diagnostic et sur l'ambiance générale de la campagne, nous, on sent qu'il y a plein de biais qui intéressent les citoyens et qui touchent à nos sujets, même si, comme je disais tout à l'heure, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Donc, par exemple, dans les gros sujets qu'on identifie dans la campagne, c'est celle de la vacance commerciale. Et on appelle à ne pas tomber dans le piège un peu trop facile de « Ah, c'est parce qu'on a fait la chasse aux voitures que les commerces sont vides sur le boulevard Saint-Michel ». En réalité, là, il y a un vrai problème de loyer, on le sait, tout le monde le sait. Il faut intervenir dessus. Un autre sujet qui est pas mal ressorti dans les conversations, dans les réunions citoyennes de toutes sortes, c'est la place des librairies indépendantes, par exemple. Elles sont menacées dans plein d'endroits. Là aussi, c'est le loyer, le foncier et l'immobilier qui peut parfois permettre de déverrouiller une situation et de pérenniser une activité culturelle d'intérêt général.
Catherine, qu'est-ce qu'on observe dans la campagne? Est-ce qu'il y a quoi de neuf côté proposition sur le logement?
Ça fait quelques mois maintenant qu'à Idéal, on a lancé une sorte de mouvement qui s'appelle, qu'on a baptisé en tout cas le logement en campagne. Et on a fait plusieurs événements pour mobiliser, sensibiliser, etc. Nous, notre slogan, c'est de dire redonner le logement, au logement la place qu'il mérite, remettre le logement à sa place. Donc la place du logement, elle est essentielle pour les ménages, elle est essentielle pour les opérateurs économiques et elle devrait être essentielle pour les responsables politiques, ce qu'elle n'est pas toujours. Alors là, on voit quand même, je trouve, un petit mouvement de montée du logement dans les programmes, parce que par exemple aux élections présidentielles, ce n'est jamais présent très haut. Dans les débats entre candidats, ce n'est même quasiment pas prononcé. Là, compte tenu de la profondeur de la crise, on peut dire que quand même les élus se sont rendus compte qu'il fallait peut-être qu'ils fassent quelque chose avec les outils dont je parlais tout à l'heure et dans les limites de ce qu'ils peuvent faire aussi. Hein. Donc après, si on regarde un peu ce que proposent les uns et les autres, bah, c'est assez classique. Hein. C'est-à-dire que la gauche, elle propose plutôt des politiques publiques. Enfin, il y a trois thèmes qui ressortent. Hein. C'est la régulation des marchés, le logement social et quand même une politique environnementale qui est liée au logement et ou à l'habitat, hein, pour dire un peu plus large. Donc pour le logement social, bah, la gauche propose d'en construire plus, d'en rénover, de donner plus accès au logement social. Et la droite, très classiquement, ben c'est OK le logement social pour certains, mais avec des conditions nouvelles d'accès. Donc, conditions familiales, conditions d'origine, travailleurs. Enfin, voilà, on n'est pas loin du travail famille patrie, hein, quelque part. Sur la régulation des marchés, la gauche prône l'action publique, hein, avec l'idée de diminuer le taux d'effort des ménages, c'est-à-dire la part de revenus qui est consacrée au logement et qui est autour de 30%, alors que la droite propose de déréguler, c'est-à-dire baisser la fiscalité ou faire une fiscalité avantageuse pour les propriétaires. Et puis... par exemple, supprimer l'encadrement des loyers. Je crois que c'est une proposition à Lyon qui est dans les programmes aujourd'hui.
Annie, est-ce que côté parité sociale, on observe des différences justement entre d'approche de cette question-là entre les partis de droite et les partis de gauche? Est-ce que d'ailleurs au sein des partis, et d'ailleurs on pourrait aller jusqu'à l'extrême droite, est-ce que c'est cette représentativité des classes populaires au sein des partis et au sein des élus est différente en fonction de la couleur politique?
Il n'y a pas tant de différence que ça, même si la gauche est quand même mieux. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Je pense que c'est parce que ce sont des réflexes. Hein. Ce sont des réflexes identitaires. C'est-à-dire qu'il y a une élite qui est entre elles et qui a l'habitude de travailler entre elles. Donc non. Moi, ce que j'ai pu remarquer, par exemple, sur mon premier mandat de conseillère régionale, hein, chez les élus RN, il y avait pas mal de gens.
N'étiez pas élu RN. Hein.
Non, ah non, certainement pas. C'est ma grande copine à la région, c'est Marie-Caroline Le Pen. On n'est pas très, c'est assez rigolo même. Ils avaient pas mal d'élus issus des quartiers pop. Et c'est fini ça. Ils sont notabilisés et donc ils sont même pires que les autres en fait. Donc non, il y a pas tant, même si la gauche fait un peu mieux.
Hugo, est-ce que cette idée de faire en sorte que cette idée qui n'est pas très libérale, de faire en sorte que quelques mètres carrés échappent à la loi du marché pour servir l'intérêt général, finalement on a l'impression que c'est plutôt bien accepté à droite comme à gauche. Est-ce que peut-être on voit que ces clivages idéologiques, on les ressent moins au niveau local ?
On les ressent, mais à la fin, il y a une forme de pragmatisme qui fait que on arrive à trouver des voies. Voilà. Et après, il y a en parler, le faire, bien ou mal. Et si je fais le parallèle avec le logement social, on sait qu'il y a plein d'élus de droite qui font malgré tout un peu de logement social. Ils choisissent leur logement social pour que ce soit pas le plus social, mais ça leur permet de cocher les cases, ça leur permet malgré tout de loger leurs habitants et visent en gros un public de classe moyenne. Bon, on peut retrouver un peu le même parallèle dans le monde de l'immobilier social et solidaire, avec des élus qui, par pragmatisme, vont soutenir des projets portés par des foncières solidaires, par exemple, parce que ça va revitaliser leur centre-ville, etc. On aimerait qu'ils aillent plus loin, qu'ils le fassent sur des modèles plus engagés, mais on est déjà content que ça se passe.
C'est intéressant de regarder en fait les différents choix des partis politiques, parce qu'il y a eu une époque où la politique du logement était réputée pouvoir façonner un électorat. Et c'était facile à ce moment-là, il y a 10, 20, 30 ans peut-être, de se dire, ben voilà, les électeurs de gauche, ils sont dans le logement social, et les propriétaires de pavillons, ils votent à droite. Et donc moi, à travers mon projet politique ou à travers l'organisation et l'aménagement de l'espace dont je suis responsable, je vais privilégier tel ou tel électorat. Je crois que ça, c'est complètement terminé. C'est-à-dire que bien malin qui peut dire qui vote en fonction de là où il habite. Hein. Imaginez qu'on va façonner un électorat par une politique du logement, je pense que c'est vraiment pas la voie à suivre. Néanmoins, le projet politique, il doit comporter une politique du logement, à droite, à gauche. Enfin, en tout cas, l'idée d'administrer un territoire, c'est quand même de permettre aux personnes d'y habiter correctement. Et donc, habiter, ça commence par être logé. Donc voilà, autre résultat intéressant donc, qu'on a fait via une étude à Idéal qui s'appelait Maire bâtisseur, maire battu. Est-ce que ne rien faire, ça veut dire qu'on va être réélu, et construire, ça veut dire qu'on va pas être réélu. Alors d'abord, cette phrase qui a été quand même utilisée à tout bout de champ, et surtout pour ne rien faire, elle date de 1977, prononcée par le maire de Créteil. Mais en 1977, c'était avant les lois de décentralisation, les maires n'avaient pas en main les permis de construire. Donc enfin, tout a changé depuis.
C'était de la pure mauvaise foi.
Pure mauvaise foi, mais qui est quand même qui a une certaine qui a une certaine durabilité parce qu'elle est toujours utilisée. Et aujourd'hui, ce qu'on a démontré dans notre étude, c'est que ça marche relativement dans les petites villes, c'est-à-dire les maires qui construisent dans les petites villes sont plutôt réélus, les maires qui construisent beaucoup dans les grandes villes sont plutôt pas réélus, mais on peut en conclure des tas de choses, et notamment le fait qu'il y a une offre politique et un nombre de listes plus importantes dans les grandes villes, donc une concurrence politique plus grande, qui peut être tout à fait une explication de la non-réélection. Donc la certitude comme résultat de cette étude, c'est qu'en fait, on peut tordre le cou définitivement à cette expression.
On se dirige à la fin de l'émission et donc, on voulait vous poser la question de si vous voyez peut-être si vous portiez avec vos organisations respectives des propositions que les futurs exécutifs locaux pourraient adopter pour mettre en place leur programme. Je ne sais pas qui veut commencer, Catherine.
Catherine. Juste avant, je voulais dire un mot sur Paris, puisque tout à l'heure, j'ai parlé finalement de pas mal de villes ou d'un résultat un peu national, mais pas de Paris. Le bilan parisien sur le logement, il est excellent. Donc, il y a beaucoup à continuer, beaucoup à poursuivre, sans doute des choses nouvelles, notamment autour du logement spéculatif, de les interrogations sur la propriété à mener, etc. Mais c'est intéressant de voir que dans le programme d'Emmanuel Grégoire, le logement est en première position. Alors, est-ce que c'est l'effet Mamdani, hein ? Après tout, ça a marché à New York, donc on peut espérer que ça joue. Mais c'est aussi peut-être tout simplement le fait d'avoir compris que le logement, c'est le socle de tout. Et comme le disait Dominique tout à l'heure, c'est, pour moi, ça devrait être la première des politiques publiques. Donc, moi, si j'avais à non pas à faire des propositions, mais à donner peut-être une petite recette à des personnalités politiques qui se présentent à tout type d'élection et qui soient de droite comme de gauche d'ailleurs, c'est d'utiliser le logement, c'est un petit trick quoi, c'est utiliser le logement comme porte d'entrée vers tout le reste. C'est-à-dire que le logement, ça permet de parler de mobilité, ça permet de parler de travail, ça permet de parler d'éducation, ça permet de parler de famille, ça permet de parler de santé, et à partir de là, on peut tout dire. La question, c'est que c'est aussi un sujet clivant. Et quand on parle aux locataires, on ne parle pas aux propriétaires et vice-versa. Quand on parle aux ruraux, on ne parle pas aux urbains et vice-versa. Et dernier grand clivage, je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande différence entre les personnes qui utilisent le logement comme un actif financier et comme un revenu, et puis tous ceux qui en ont besoin pour se loger. Donc à droite comme à gauche, il faut avoir en tête que le logement, ça sert d'abord à loger les gens.
Peut-être avant dans Hugo et Annie, j'aurais voulu, Catherine, t'entendre sur cette particularité qui est arrivée depuis 10 ans, qui est, on produit du logement, mais beaucoup sont vides parce que résidence secondaire et parce que Airbnb. Ce qui fait que le projet politique ne peut plus se limiter à offrir du logement, mais à garder le logement sur le marché, qui est une nouveauté, je dirais, dans l'échiquier politique. Si tu veux en dire un mot avant qu'on passe la parole à Hugo et à Annie.
Bah, c'est une nouveauté qui a généré pas mal de régulations et peut-être dont on commence à voir le reflux, disons, puisque ça a été quand même une vague extrêmement forte, notamment dans les villes littorales, mais à Paris aussi. Hein. Et aujourd'hui, finalement, par l'idée de réquisitionner des logements vides. Réquisitionner, ça ne veut pas dire supprimer la propriété.
Mais ça fait une vraie différence gauche-droite. Hein.
Ah, ça, c'est très clair. C'est une vraie différence gauche-droite parce que c'est une vraie différence entre des électeurs qui sont des multipropriétaires et qui utilisent le logement pour un revenu et qui finalement se fichent pas mal de qui ils logent. Hein. Ils logent en l'occurrence des passants. Donc en plus des gens qui ne votent pas, qui ne restent pas. Et puis la gauche qui considère que le logement c'est fait pour un usage immédiat, pérenne, accessible au plus grand nombre. Et ça c'est vrai que c'est un clivage très très fort. Et je pense que la régulation doit être de plus en plus difficile, de plus en plus dure. Et contraignante pour être efficace.
Hugo, Christy, oui, Surface Plus Utile a fait des propositions, je crois, concernant l'immobilier solidaire à destination des futurs élus locaux. Quelles sont-elles ?
Tout à fait. Je voulais juste d'abord enfoncer le clou par rapport à ce que disait Catherine et abonder dans son sens sur le bilan de la ville de Paris. 20 ans d'action, je crois que si on revient au premier mandat de Bertrand Delanoë, je parle sous votre contrôle parce que vous le connaissez mieux que moi, mais on était à peut-être 7 ou 8% de logements sociaux et aujourd'hui on doit être autour de 28%. On se dirige vers les 30%. Donc c'est un investissement massif qui a été réalisé.
En seulement 20 ans, quelque part.
Oui, en seulement 20 ans, quelque part. Et là où je voulais en venir, c'est attention, je le dis aux électeurs et aux électrices qui nous écoutent, parce qu'il peut suffire d'un mandat aussi pour détricoter 20 ans d'action et d'investissement, avec des propositions qu'on entend sur la droite de l'échiquier politique, assez radicales en matière de vente de ce patrimoine collectif.
À bon entendeur.
À bon entendeur. Et pour ce qui concerne les propositions de Surface Plus Utile, absolument, si vous êtes sur une liste ou si vos tatas, tontons, cousins, cousines sont sur une liste, n'hésitez pas à vous rendre sur surfaceplusutile.fr pour les découvrir. On a 12 propositions, vous verrez qu'elles sont très concrètes et pragmatiques. Elles consistent à d'abord compter les espaces vides qu'il y a sur votre commune, compter également les besoins que peuvent avoir les acteurs locaux, et je pense en particulier aux acteurs de l'économie sociale et solidaire à qui on demande de payer un loyer plus aussi cher que les autres acteurs alors qu'ils ont un modèle de lucrativité limité, voire nul, et après essayer de mettre en adéquation ce stock de mètres carrés disponibles et cette demande à travers plein d'outils qui sont détaillés dans les propositions pour intervenir sur le foncier, pour modifier la fiscalité, etc.
Merci. Annie, la maire, est-ce que... DLP porte des propositions qui pourraient permettre de progresser en termes de parité sociale au sein des exécutifs locaux.
Oui, on a des propositions. Déjà, je pense que je vais pas faire la liste à la Prévert. Hein. C'est bien d'aller sur le site. On a fait 10 propositions. En fait, on parlait tout à l'heure de parité femmes-hommes. En fait, nous, on repart un peu de la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que ça commence par les partis politiques. Déjà, les partis politiques doivent instituer cette parité sociale dès qu'ils déposent des listes. Hein. Et pour ce faire, il faudrait qu'on puisse avoir des listes qui sont qu'on puisse voir qui se présente, ce qui est assez compliqué,
et que expliciter l'origine sociale des candidats et candidates.
Oui, ça c'est un fait. Alors nous, on voudrait aller un peu plus loin quand on parle de parité sociale, c'est aller plus loin et de voir quel est le capital économique des personnes qui se présentent, parce que ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'on peut avoir des personnes issues des quartiers pop, mais qui ont un capital économique qui est quand même assez important. Donc il y a aussi ça. Ça fait partie des critères. Mais on voudrait qu'il y ait une critérisation au sein des partis politiques, qu'on arrête de nommer les gens en fonction de la proximité avec, par exemple, les chefs. Et ensuite, on parle de formation, d'aider aussi. Enfin, moi qui étais une maman solo, c'est pas évident hein, de pouvoir s'investir en politique parce qu'il faut du temps, il faut de l'argent, il faut pouvoir payer payer babysitter pour aller aux réunions, etc. Et donc ça aussi, c'est d'accompagner financièrement les personnes dans leur parcours d'intégration à une liste, à un projet politique. Donc tout ça, c'est sur notre site, je pense qu'il faut aller regarder. Mais je pense que le processus doit être le même que pour la parité femmes-hommes, pour arriver à la fin à une loi. Et c'est vers ça que nous on souhaite aller, c'est de proposer des lois. Voilà.
Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Catherine Sabat, Hugo Christy, Annie Lamer, pour d'être venus nous parler de votre rapport à la ville dans cette émission spéciale élections municipales qui auront lieu, donc je le rappelle, les 15 et 22 mars prochains. Merci Dominique, merci à Plateau Urbain et au moment de mettre à disposition le studio au sein du projet Césure. À bientôt pour un épisode de Ainsi va la ville sur Cause Commune 93.1 FM. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter.